Marie-Josée Rocheron, Janine Rogers, présente American Story.
Chaque mois, American Story vous présente une émission qui explore l'histoire du roman américain depuis ses origines. Nous allons aujourd'hui vous parler de Saul Bellow et Philip Roth. Aux États-Unis, du fait de l'immigration, la société est composée d'une mosaïque de races et donc de cultures différentes. La littérature américaine va refléter toute ces diverses tendances. On peut parler de littérature juive, même si sous ce vocable se retrouvent des auteurs très divers. De l'écrivain juif pénétré de culture ancestrale à l'athée en rupture de tradition. Nous aimerions, comme je viens de vous le dire, vous parler aujourd'hui de deux de ces écrivains, Saul Bellow et Philip Roth. Saul Bellow est né en 1915 au Canada de parents juifs orthodoxes arrivés d'Europe centrale. Il grandira jusqu'à l'âge de 9 ans dans un quartier pauvre de Montréal où se côtoient de nombreux étrangers. Il en connaît 4 langues, le yiddish qu'il parle à la maison, l'hébreu qu'il apprend, l'anglais et le français qu'il entend dans la rue. Après la mort de son père, la famille part à Chicago, ville à laquelle son nom va rester indissociablement lié et qui va servir de cadre à ses romans. La mort de sa mère fut pour lui, à 17 ans, un choc très profond. En 1935, muni d'un diplôme de sociologie et d'anthropologie, il va terminer ses études à l'Université du Wisconsin, études qu'il abandonne pour se consacrer à l'écriture. En 1944, il s'enrôle dans la marine marchande américaine, puis il va débuter parallèlement une carrière de professeur de littérature qui le mènera de Chicago à New York pour enfin revenir à Chicago en 1961. Il publie son premier roman, Un homme en suspens, en 1944, dans lequel il s'élève contre une société qui ne peut tolérer la marginalité. Son troisième livre, Les aventures d'O.G. March, lui vaut son premier National Book Award. En 1964, paraîtra Herzog, son cinquième roman, récompensé par un deuxième National Book Award. Avec ce livre, il rencontre les faveurs du grand public, mais s'attire la haine de ses pairs qui parlent de mafia juive. Il lui est reproché de ne pas s'engager contre la guerre du Vietnam. Désigné à l'opprobre général, il va poursuivre le travail de dissection de l'Amérique et il fait paraître la planète de Monsieur Samier. La réussite est totale. Il remporte là son troisième National Book Award en 1970. Publié en 1975, Le Don de Humboldt est couronné par le prix Pulitzer, suivi du prix Nobel de littérature qu'il reçoit en 1976. Saul Bellow va s'éteindre à l'âge de 89 ans, après avoir remporté 5 des grands prix de littérature, avoir écrit un très grand nombre de romans et contracté 4 mariages. Les aventures d'O.G. March, roman picaresque, débordant de force et de vitalité, s'ouvre par cette déclaration d'intention. Je suis un Américain né à Chicago. Il raconte la saga des Juifs d'Amérique, leur inscription dans l'histoire et la manière dont ils se sont introduits dans le rêve américain. Elle est le signe que les immigrés qui ont fui les pogroms et le nazisme sont maintenant enfin chez eux en Amérique. C'est une quête qui est loin d'être facile. L'auteur y explore les thèmes de l'identité individuelle et collective, de l'intégration, de la difficulté à frayer son chemin. Il n'y a pas de route tracée. Le héros Audie March multipliera les expériences sans parvenir à résoudre les multiples questions qu'il se pose. Un autre de ces personnages, l'inoubliable Monsieur Samler, vieux juif rescapé de la Shoah, qui observe de son œil unique intact la jeune génération mal élevée, crie son désarroi. Mais il s'acharne à vouloir donner un sens, et là je cite, « aux misérables pitreries de l'existence ». Finalement, les personnages aiment tellement leurs propres souffrances qu'ils refusent de les transcender pour atteindre à une paix intérieure qui viendrait d'une quelconque croyance religieuse. Tous ces personnages symbolisent la conscience malheureuse de l'Amérique. Enfin, dans Herzog, son cinquième roman, Saul Bellow réalise de manière brillante la synthèse des sentiments contradictoires qui l'agitent. Bardé de diplômes, le professeur Herzog passe son temps à écrire des lettres qu'il n'enverra jamais à tous les grands de ce monde, morts ou vivants. Avec Herzog, Bellow crée un personnage capable des plus folles aspirations, mais assez fort pour accepter les contingences imposées par la vie. Ce personnage de l'intellectuel juif, urbain, névrosé, mais plein d'ironie destructrice, sera popularisé dans les films de Woody Allen. On peut parler de judéité dans la mesure où elle est à la racine de l'écriture de Bellow, de sa perception du monde, de sa sensibilité. On y retrouve ce mélange de résignation et de dérision. Enfin, on note chez lui une certaine musique du phrasé, un rythme particulier de l'anglais qui tient indépendamment à ses origines. Alors, Janine, vous allez nous parler maintenant du second auteur que j'ai évoqué tout à l'heure, Philip Roth.
Oui, tout à fait. Alors, lorsqu'on parle de Roth, lorsqu'on le qualifie de romancier juif américain, il répondait qu'il se considérait comme un romancier américain tout court. Pourtant, c'est bien sa propre expérience de vie que ses romans... Enfin, c'est sur cette expérience que ces romans sont fondés. Né le 19 mars 1933 à Newark, dans le New Jersey, il est le petit-fils d'immigrés juifs de Russie, du côté paternel, et de l'Empire austro-hongrois, du côté maternel, arrivé aux États-Unis au tout début du XXe siècle et ne parlant que le yiddish. Il raconte ainsi le Newark de son enfance.
Dans les années 30, Newark était une juxtaposition de petits villages, chacun regroupant une communauté. Polonais, Italiens, Allemands, Irlandais, les seuls qui parlaient anglais. Quatre villages plus petits regroupaient les Juifs, les Noirs, les Grecs et les Chinois, ces derniers peu nombreux. En gros, c'était comme si on habitait dans une Europe miniature, une Europe qui bouillonnait à petit feu, sans les Français et les Espagnols. Après, dans les années 50, les Portugais ont commencé à traverser l'Atlantique. Ensuite, ça a été les Brésiliens.
Les parents qui appartenaient à la classe moyenne de Newark désiraient que leurs enfants s'américanisent, aussi qu'ils fassent de bonnes études pour avoir une bonne situation.
Pas de barbe, pas de kippa. Tout le monde parlait anglais dans la rue comme à la maison. Nous étions totalement américanisés, mais quand même très conscients que nous étions juifs.
C'est à l'université que Ross va rencontrer un environnement non juif pour la première fois. Ross lit beaucoup. Il lit Henry James, Flaubert, les écrivains juifs. Mais à part celle de Virginia Woolf, les œuvres britanniques lui demeurent extérieures. « Ce sont les Américains qui me parlent, dit-il. Mon cœur est là. » Il admire les premières œuvres d'Hemingway, surtout « L'adieu aux armes ». Il commence par écrire des nouvelles, puis en 69, il obtient un immense succès de scandale avec Portnoy et son complexe, satire des mœurs de la petite bourgeoisie, des tabous sociaux et sexuels américains. Y apparaît un personnage bien connu de la mère juive, à l'amour étouffant pour son fils. En 1974 paraît le premier roman du cycle des Zuckerman, « Ma vie d'homme ». Zuckerman est comme Ross, un écrivain extrêmement critique sur la société américaine. Ses livres sont à la fois de l'autobiographie et de la fiction. Par exemple, en 1990, Zuckerman subit un triple pontage, opération que Ross lui-même venait de subir. Dans la première version de Tromperie, l'épouse du héros se prénomme Claire, ce qui suscitera la colère de Claire Bloom, l'actrice britannique compagne de Ross. D'ailleurs, Claire Bloom est présente dans Patrimoine, une vraie histoire, une histoire sans masque, comme l'a défini Ross. Ce ne sont donc pas des autobiographies, mais il se sert de son expérience de la vie dans tous ses romans. En octobre 2012, il annonce dans un entretien pour Les Inrecuptibles que Némésis est sa dernière œuvre, qu'il n'écrit plus. Il dit relire les romanciers qu'il a aimés dans sa jeunesse, Dostoïevski, Tchekhov, Conrad, Kafka, Céline. Quant à Proust et Joyce, il n'a jamais réussi à y entrer, dit-il, pour conclure, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais. Nous venons de vous présenter deux écrivains américains, fortement marqués par leur identité juive. Ils connaissaient un autre auteur juif new-yorkais, qui les avait précédés dans l'écriture de romans, c'est Bertrand Malamude, né en 1914 et décédé en 1986, dont l'œuvre la plus connue est L'homme de Kiev en 1966, adaptée 2 ans plus tard au cinéma. Avec Saul Bellow, il est considéré comme l'un des 2 maîtres du roman juif américain qui ont influencé la génération suivante d'écrivains, dont Philip Roth. En conclusion, laissez-moi vous faire partager la définition du vrai lecteur que donne Roth à Josiane Savigno au cours d'une interview. Le nombre de vrais lecteurs, ceux qui prennent la lecture au sérieux, se réduit. C'est comme la calotte glaciaire. Un vrai lecteur de roman, c'est un adulte qui lit, disons, 2 ou 3 heures chaque soir, et cela 3 ou 4 fois dans la semaine. Au bout de 2 à 3 semaines, il a terminé son livre. Un vrai lecteur n'est pas le genre de personne qui lit de temps en temps par tranche d'une demi-heure, puis met son livre de côté pour y revenir 8 jours plus tard sur la plage. Quand ils lisent, les vrais lecteurs ne se laissent pas distraire par autre chose. Ils mettent les enfants au lit et ils se mettent à lire. Ils ne tombent pas dans le piège de la télévision. Ils ne s'arrêtent pas toutes les 5 minutes pour faire des achats sur le net ou parler au téléphone. Et c'est indiscutable, ils sont en voie de disparition. Alors j'ajouterai, j'espère que les vrais lecteurs ne sont pas en voie de disparition. Sommes-nous nous-mêmes de vrais lecteurs?
Rendez-vous le mois prochain sur nos fréquences en Eure-et-Loire et aussi sur le site internet de la radio www.radiograndciel.fr.